7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les femmes au travail et le plafond de verre. Vous savez ce plafond de verre qui laisse apercevoir la lumière, le soleil, le vent, mais sans pouvoir les ressentir réellement. Pourtant, le débat sur la parité est sur la table, avec dans certains pays de vraies avancées pour permettre aux femmes de prendre des postes à responsabilité. En théorie, tout serait possible. Longtemps considérées comme des plantes d'intérieur, les femmes aspirent maintenant au grand air. Mais entre les bons résultats scolaires des filles et les carrières réelles des femmes, il y a ce fameux plafond de verre, y compris et surtout au plus haut niveau. Parmi les entreprises cotées en bourse aux États-Unis, moins de 5% sont dirigées par des femmes et on est bien en Amérique. Mais au-delà des freins de toute une société, quels sont les freins des femmes elles-mêmes ? Sont-elles coupables de s'inventer des limites ? Pourquoi, même quand elles sont plus diplômées que les hommes, elles continuent de douter de leurs compétences et de leur légitimité? Nous allons en discuter avec nos invités, parmi elles une coach pour les carrières de femmes, Prisca Kouakou, qui sera en ligne avec nous tout à l'heure en direct d'Abidjan. Des carrières de femmes qui doivent concilier maternité et vie de famille, pas facile sur le continent. Dans le studio, Florence Sandis, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir au féminin ». C'est une véritable enquête auprès de femmes dirigeantes qui ont accepté de, je dirais d'ailleurs avec bonne volonté, de livrer leurs conseils et leurs choix. Non ?
Tout à fait.
Il y a une vraie entraide.
Il y a une entraide et puis je pense qu'on ne parle pas assez des freins internes qui sont souvent tabous. On parle de cette société qui est certes très machiste et je crois qu'elles étaient contentes d'en parler.
Ouais, parce que parler des freins psychiques des femmes, ça revient, on a un peu l'impression qu'on va encore leur appuyer la main sur la tête
et non,
pour les enfoncer un peu plus, les culpabiliser.
Tout au contraire, parce que s'il y a une partie dont on est responsable, la bonne nouvelle c'est qu'on peut agir dessus. Bon. Immédiatement.
Marie-Éloi, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez créé et vous dirigez le réseau social Femmes de Bretagne et vous êtes en train de lancer aussi Bouge ta boîte pour, est-ce qu'on peut dire, pour aider les femmes à oser ?
C'est ça, être ensemble, se mettre en lien pour avoir des exemples et puis ensemble oser, on se sent beaucoup plus forte. Et puis percer tous les plafonds de verre liés à l'entrepreneuriat parce que ça existe aussi dans l'entrepreneuriat.
J'aime bien c'est le geste que dans vous le... faites de la main là pour percer le plafond de verre. Les phrases que vous entendez le plus souvent dans la bouche des femmes et pas celles des hommes ?
Mais tu crois que je suis capable ? Mais il y a mieux que moi.
Dans une autre vie, en tout cas, Marie-Éloi, peut-être les auditeurs reconnaissent votre voix. Vous avez été journaliste à RFI, reporter pour l'École des Savoirs. Et depuis que je vous connais, c'est vrai, vous participez à des concours en tout genre. Jamais vu une fille qui répond à autant de concours.
Mais c'est pas vrai.
Vous étiez finaliste il y a quelques jours d'un concours du Figaro pour les femmes entrepreneurs. Est-ce que participer à des concours, c'est une qualité encore trop masculine ou pas ?
En fait, je suis jury de plusieurs prix et je me rends compte à quel point il n'y a jamais ou très peu de femmes sur scène quand il s'agit de prix entrepreneuriaux. Et du coup, j'incite fortement les femmes à concourir au prix. Et donc, à force de leur dire « allez-y, concourez », moi aussi, je me suis dit « moi aussi, j'y vais, il faut que je montre l'exemple à mon tour ». Mais c'est important parce que ça permet aux autres de s'identifier et ça montre la voie. C'est difficile de suivre un chemin quand la voie ne semble pas être tracée. Donc, femmes d'envergure, montrez-vous, participez au prix, c'est important, on a des exemples pour les autres après.
Les femmes au travail et le plafond de verre. Autant dire les voisines que là, on attend vraiment vos témoignages sur le sujet du plafond de verre. Ne laissez pas les hommes parler à votre place. Je le dis tout le temps, mais ça marche pas toujours. Sous prétexte que vous avez plein de boulot. Oui, les hommes aussi ont plein de travail aussi aujourd'hui. Sauf que pourtant, ils ne s'interdisent pas de donner leur avis à la radio. C'est toute la différence. Ils ne vont pas se dire, mon travail sera moins bien fait. Alors appelez-nous, les filles. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages sur les réseaux sociaux. Biche à Washington écrit ceci. Les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes parce que nous vivons dans des sociétés où l'homme est considéré comme le chef de famille, le plus responsable. Beaucoup de personnes pensent que les femmes n'ont pas besoin d'un grand salaire. C'est juste de l'hypocrisie, cette histoire de homme chef de famille. Donc, il faut que le salaire soit conséquent.
Mais des fois, les femmes, elles, nous nous limitons parce que nous hésitons à gagner plus que notre mari. On se dit des fois, mais est-ce que ça ne va pas créer un déséquilibre dans le couple ? Bien sûr, il y a encore toujours ce mythe de l'homme qui porte, c'est le mythe d'Atlas, hein, qui porte le monde sur ses épaules et il faut le laisser être chef de famille. Or, aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui ont à gagner à cette égalité. Des hommes qui ne sont pas faits pour aller devenir chef d'entreprise, qui ont envie d'être écrivain ou faire d'autres choses. Et ça peut aussi beaucoup les alléger. Mmh.
Alors, avec le nombre de femmes, ceci dit, divorcées, chefs de famille, avec leurs enfants à charge, ça change.
En fait, ce sont des femmes qui, du coup, n'ont plus le choix et qui sont obligées de prendre en main vraiment tout ce qui est argent, finance, salaire. Et souvent, ce sont des femmes qui, du coup, sont obligées d'enlever leur peur et puis de foncer.
Ouais. Alors vous êtes prête à tout entendre, hein, bien sûr, et à tout lire sur les réseaux sociaux. Mesdames, Abdoul à Abidjan nous dit que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme. Désolée si ça choque. Si la femme la plus diplômée au monde n'a pas de mari, alors sa vie c'est zéro. La place de la femme est à la maison car elle doit s'occuper des enfants. Alors, évidemment, beaucoup de messages de ce type, mais ils ont le droit à la parole. Hein. Adi nous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir plein de diplômes pour constater la manière dont les femmes sont traitées. En tant que femme d'origine diverse, tu seras toujours mise de côté par la société, doublement compétente, tu auras deux fois moins d'opportunités. Triste réalité. Mais on a aussi des témoignages positifs. Alors appelez-nous pour nous dire quelles sont vos méthodes pour briser le plafond de verre et pour croire en vous-même. 33 1 84 22 71 71. Oh yeah. Yeah.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Florence, 70. Alors, quelles sont aujourd'hui tout de même les réalités objectives du plafond de verre pour les femmes ?
Alors, les réalités objectives, c'est qu'on a. Les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Enfin, elles correspondent à 60% des bacs plus 5, par exemple. Mais elles n'ont que entre 14% et 17% des postes de direction. Donc, il y a un vrai gap entre leur capacité et le poste qu'elles ont réellement dans la société. Ça, c'est le plafond de verre. Hein. C'était une expression.
Ce sont des chiffres pour la France, aux États-Unis. Mais qu'on retrouve ailleurs. Hein.
Oui, qu'on retrouve partout. C'est une expression qui est née aux États-Unis dans la fin des années 70, justement, pour nommer ces barrières invisibles à la promotion des femmes dans la hiérarchie.
Alors, si on a le sentiment que plus on monte, plus on trouve des femmes effectivement très diplômées, plus les écarts de carrière ensuite à la sortie, par exemple, des grandes écoles est important. Mm-hmm. Vous-même, vous avez commencé à vous interroger là-dessus parce que vous étiez diplômée de Sciences Po, mm-hmm. Qui est une école où il y a beaucoup de filles qui sortent de Sciences Po. Mm-hmm. Et puis, quelques années après, vous êtes interrogée sur les carrières de vos camarades.
Tout à fait. Je me suis dit, bon, on a été élevés, dans une époque qu'on pensait égalitaire. On pensait que nos mamans et nos grand-mères avaient fait tous ces combats pour nous. Et on n'a pas vu de différence quand on a fait nos études. On était au moins aussi bonnes à l'école qu'eux. Et 20 ans plus tard, on regarde autour de nous, on se dit, qui occupe les postes de numéro 1 ? C'est pratiquement toujours des hommes. Et la question, c'est pourquoi ? Voilà, je suis partie de là pour mon enquête. Et je me suis rendu compte, en effet, que bon, la société, certes, nous freine, mais les femmes aussi, nous freinons. Eh bien, le premier enfant, le deuxième enfant sont également des gros freins à la carrière des femmes.
Et pourtant, l'Europe reste le continent le plus favorable pour le travail et les carrières des femmes.
Oui, tout à fait. En France, on est un des pays où les femmes travaillent le plus. Mais on a encore du travail, malgré les lois, par exemple, sur la parité en politique. On n'a que 26% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui nous met au rang de 36e mondial. Et quand je vois qu'en Afrique, il y a 24% de femmes au Parlement, en général, ils n'ont pas trop à nous envier.
Il y a aussi les lois, la loi Copé-Zimmermann, 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, d'ailleurs.
Énormément d'effets positifs.
Énormément d'effets positifs, mais en même temps, vous dites dans votre livre, quand on a dit aux femmes, il y a des jobs à prendre, des postes à prendre dans les conseils d'entreprise, des grandes entreprises, bien sûr. Vous dites, mais les femmes ne se sont pas bousculées au portillon.
Tout à fait, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. La première chose qu'elles se sont dites, c'est, mais est-ce que je vais être capable? Et donc, on a vu éclore des tas d'écoles pour devenir administratrice de formation, que ce soit à l'EM Lyon, en école de commerce, à Sciences Po, alors que les hommes ne se demandaient pas s'ils étaient formés avant pour prendre ce poste. Donc, c'est bien parce qu'il y a une forme de professionnalisation accrue justement des conseils d'administration. Et grâce à cette loi, on est passé de 11% de femmes à 40% cette année de femmes dans les conseils d'administration des entreprises.
C'était l'objectif pour 2017. Exactement. Une chasseuse de tête raconte dans votre livre qu'aujourd'hui, tous ses clients veulent embaucher des femmes, notamment à des postes importants. C'est un effet de mode, c'est une hypocrisie pour avoir l'étiquette développement durable de l'entreprise, sachant que plus on est développement durable, plus le salaire des dirigeants en général est indexé aussi sur ces cotations, ou pas ?
Non. Si les chefs d'entreprise étaient des grands humanistes, ça se saurait. Mais simplement, ils regardent aussi tout à fait pragmatiquement. que les femmes sont souvent plus efficaces. Alors, je ne vais pas rentrer dans les femmes contre les hommes, mais on va dire les équipes mixtes sont plus efficaces, ça a été prouvé par des études comme McKinsey, sont plus efficaces que les équipes non mixtes. De même, les entreprises dirigées par des femmes ont des meilleurs résultats que celles dirigées par des hommes. Donc, ça montre que les femmes, on peut apporter beaucoup de choses en performance pure économique pour l'entreprise.
Mmh. En même temps, le pouvoir n'est pas une finalité en soi. Beaucoup de femmes vont rétorquer ceci.
Bien sûr, moi je respecte tout à fait. Si des femmes n'ont pas envie de travailler ou ont des passions, ou préfèrent faire du bénévolat toute leur journée, mais qu'au moins les femmes qui veuillent faire une carrière le puissent. Voilà, c'est ça, hein,
Brigitte. Aller au bout de ses rêves. Pas forcément prendre le pouvoir, mais aller au bout de ses rêves et de ses ambitions.
Et qu'on ne soit pas freiné pour des mauvaises raisons. Et puis surtout qu'on ose aussi proclamer ses ambitions. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas.
Ouais. Marie-Éloi, vous avez fondé et vous dirigez le réseau social Femmes de Bretagne. C'était créé il y a un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, combien de milliers d'adhérentes,
hein? Alors, on est 5200 membres en Bretagne sur 5 départements. Et surtout, on organise entre 30 et 40 rencontres d'entraide collective chaque mois. Donc, moi, j'adore aller voir toutes ces femmes qui créent, qui ont des projets, qui s'entraident, qui partagent leurs compétences pour ensemble aller plus loin.
Qui sont donc des femmes qui veulent créer leur boîte?
Oui, ce sont des femmes qui veulent créer leur boîte. On met en lien vraiment toutes les femmes, les porteuses de projets, les chefs d'entreprise. Elles sont à peu près 2000. Et puis celles qui veulent les aider. Donc les salariés, les retraités, les étudiantes, les femmes en congé parental, au chômage. Et on voit justement une spirale vertueuse, parce que comme vous disiez, beaucoup n'osent pas dire leurs idées. Donc on les voit s'inscrire sur le site internet, la plateforme collaborative. Et ensuite, elles voient le ton, parce que les réseaux féminins ont vraiment une spécificité, c'est le ton d'authenticité. On se dit les choses telles qu'on est entre femmes sur un réseau social comme LinkedIn. On n'oserait jamais dire qu'on manque de confiance pour notre projet ou qu'on manque de clients pour notre entreprise. Et sur un réseau comme un réseau féminin, comme celui de Femmes de Bretagne, on ose justement se dire avec ses faiblesses. Et donc, elles voient le ton, elles voient qu'on n'est pas des superwomen, mais qu'on est juste des femmes normales. Ensuite, elles viennent aux rencontres. Et là, quand on leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Oh, bah, je viens juste pour aider et tout. Et puis, on fouille un peu. Puis, au bout d'une demi-heure de discussion, elles disent, mais en fait, j'ai un projet, mais c'est juste une petite idée. Et puis après, ça y est, on les voit partir. Donc, c'est vraiment une spirale vertueuse. Elles se rendent compte qu'en discutant avec les autres, elles peuvent oser dire ce qu'elles veulent.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut parler d'un auto-sabotage des femmes, Marie-Éloi?
Alors, il y a bien sûr tout le poids de l'histoire, de la culture. Il faut pas oublier qu'en 1965, c'était la première fois où les femmes pouvaient librement ouvrir un compte en banque, donc parler d'argent et tout. Donc c'est tout récent tout ça, donc c'est normal, il y a tout ça, il y a ce poids de l'histoire, dans les livres d'histoire, il y a très peu de femmes, dans les noms de rues, pareil, il y a très peu de femmes, etc. Donc il y a tout ce poids-là. Et en plus, les femmes, elles, par contre, manquent cruellement de confiance en elles. C'est-à-dire que pour la création d'entreprise, un homme, s'il a 30% d'une idée, il va trouver ça génial, il va lever la main, il va foncer. Et une femme, quand elle veut créer une entreprise, il faut qu'elle ait 90%, 100%, voire 120% de l'idée bien ficelée pour oser dire « je veux créer mon entreprise ». Donc il y a ce manque de confiance-là qui s'explique d'une part par le manque d'exemples. On a très peu de femmes interviewées dans les médias et les femmes qui sont interviewées, elles ne ressemblent pas beaucoup forcément, elles sont vraiment d'envergure, donc on a du mal à s'identifier. Et d'autre part, parce que les femmes jusqu'à présent étaient très peu mises en lien et le digital permet enfin de mettre les femmes en lien et donc de s'entraider, de partager des compétences.
Une petite voix intérieure finalement qui parle en permanence aux femmes, hein, Jiminy Cricket, mais pas toujours dans le bon sens, hein, d'accord.
Et oui, parce qu'on a quand même intégré, même inconsciemment, des millénaires de machisme. Donc bien sûr, on a cette petite voix qui nous dit « mais tu pourras pas, mais il faut privilégier la carrière de ton conjoint et les enfants qui va s'en occuper, etc. » Mais heureusement, on peut la combattre.
30% des entreprises qui sont dirigées aujourd'hui par des femmes.
Oui, dans la réalité, au-delà de 10 salariés, il n'y a plus personne.
Appelez-nous les voisines, si vous écoutez l'émission, si vous avez envie de témoigner, parlez de vos difficultés, hein, vous avez entendu le ton, on va se parler cash, 33 1 84 22 71 71. Percez le plafond de verre quand on est une femme, quelle que soit sa carrière.
C'est fun, c'est Blondie chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez RFI, 7 milliards de voisins, tous les jours du lundi au vendredi pour parler de tout ce qui vous, de tout ce qui nous concerne. Et aujourd'hui, briser le plafond de verre, 12 clés pour réussir au féminin. On accueille Prisca Kouakou qui est au téléphone avec nous en direct d'Abidjan. Bonjour Prisca.
Bonjour Emmanuel.
Prisca, vous étiez salariée, bien confortable à Abidjan. Vous avez tout lâché pour monter votre boîte, une boîte de conseils en communication. Hein. Vous coachez en particulier des femmes, hein, des femmes cadres.
C'est ça.
Et vous avez vous-même donc démissionné d'une entreprise. Vous avez publié une tribune assez remarquée. Quelles sont ces choses que vous auriez voulu savoir avant d'entreprendre, en particulier parce que vous êtes une femme, Prisca?
Ben, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. C'est une aventure dans laquelle il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques, beaucoup de challenges. Donc, j'aurais voulu qu'on me dise de bien me préparer, hein, de m'attendre à tout, à des hauts, à des bas, pour justement réussir dans ce que je voulais faire.
Mmh. Oui, mais ça, pour les hommes aussi. Hein.
Oui, pour les hommes aussi, bien sûr.
Mais alors, quelles sont les spécificités des problèmes que vous avez rencontrés?
D'abord, problème de confiance en moi-même. Est-ce que j'étais capable de pouvoir relever ce défi-là, de pouvoir vivre sans un salaire? C'est déjà ça ma première préoccupation. Mmh. Donc, comment j'allais faire justement pour démarcher des entreprises? Est-ce que j'avais suffisamment de relations dans de grandes entreprises pour pouvoir briguer des projets, briguer des marchés. Voilà, donc c'était beaucoup un problème de confiance en moi-même. Et puis aussi l'aspect familial, parce que je suis mariée, mère de 3 enfants.
Ouais.
Donc comment pouvoir gérer mes ambitions entrepreneuriales et gérer ma famille en même temps.
Quel âge ont vos enfants, Prisca?
5, 3 et 5 mois.
Ah! Oui, c'est pas simple, effectivement. L'aspect, effectivement, on démarre sa boîte, on ne gagne pas d'argent. Marie-Éloi, ça c'est un sujet qui est abordé en permanence au réseau social Femmes de Bretagne.
En fait, c'est vraiment ce que j'ai constaté, c'est lors des rencontres, j'ai commencé à demander, mais qui vit de son activité? Et la plupart ne vivent pas de leur activité. On avait fait un questionnaire dans un groupe restreint et on avait demandé « Mais combien souhaiterez-vous gagner grâce à votre entreprise par la suite ?» Et le chiffre donné, c'était 1000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et t'as pas un homme qui va avoir pour ambition de gagner 1000 euros de chiffre d'affaires grâce à son entreprise.
Oui, ça s'appelle du bénévolat, quasiment.
Mais en fait, elle me dit « Mais c'est pas grave, je fais ce que j'aime. » Et donc, il y a un truc à faire sur l'argent. Il y a vraiment un frein lié aux femmes et l'argent. Faire du business entre elles, faire de l'entraide, elles font. Faire du business, ça c'est autre chose. Parler d'argent, c'est autre chose aussi. Oui.
Les femmes n'osent pas parler d'argent et il faut savoir que seulement 1% des richesses mondiales sont détenues par des femmes aujourd'hui. Et quand on enlève toutes les grandes héritières de grandes sociétés, il reste vraiment plus grand monde. Donc déjà, les femmes ne sont pas habituées à posséder de l'argent et elles ne sont pas habituées à en demander. Pour elles, l'argent reste sale. Et je pense qu'il faut, nous, qu'on change aussi dans nos mentalités pour nous dire, mais l'argent peut être justement source de créativité, d'emploi et de d'épanouissement personnel. Donc il faut qu'on arrive à en demander. Les entreprises, par exemple, dirigées par des femmes, enfin les entreprises femmes, lèvent 2 fois moins d'argent que les hommes. Elles demandent moins.
Et quand elles demandent des prêts bancaires?
Elles demandent déjà beaucoup moins de prêts bancaires qu'un homme. Quand elles créent leur entreprise, elles voient généralement plus petit, donc elles vont prendre l'argent de la famille, ce qui est risqué, alors qu'il y a des garanties spéciales pour les femmes, pour justement éviter qu'en cas de souci, elles doivent dépenser tout l'argent de la famille. Donc elles prennent l'argent de la famille, elles font des prêts bancaires moins importants. Et ensuite, il y a aussi un taux de rejet bancaire qui est légèrement plus élevé pour les femmes, parce qu'elles savent moins bien se présenter face aux banquiers.
Et je dis souvent aux femmes, arrêtez de dire petite, rayez-le de votre vocabulaire.
Rien n'est petit chez les femmes.
Ma petite entreprise, je monte ma petite association, je voudrais un petit prêt.
J'ai un petit projet,
j'ai une petite idée.
Pourriez-vous m'accorder un petit moment? Non, je monte mon entreprise.
Vous restez avec nous, mesdames. Comment briser le plafond de verre 12 clés?
7 milliards de voisins. On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins et de voisines, les femmes au travail et le plafond de verre. On en discute avec vous, Marie-Éloi, fondatrice, directrice du réseau social Femmes de Bretagne, une ancienne de RFI que certains auditeurs reconnaissent peut-être. Et puis, vous êtes en train aussi de créer Bouge ta boîte. En tout cas, ce sont pour des femmes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise, ou pour Bouge ta boîte, ce sera pour des femmes qui sont déjà des entrepreneurs de très petites entreprises. Florence Sandis, tiens, vous nous disiez juste avant le flash, ne pas dire petite, surtout. Quand on est une femme, ne pas se restreindre. Vous publiez Briser le plafond de verre, 12 idées pour réussir au féminin. Et nous sommes également en ligne avec Prisca Kouakou qui a lâché son job salarié pour monter sa boîte, une boîte comme par hasard de communication, de conseil en communication, et qui coach énormément de femmes cadres. Et vous nous appelez les voisines au 33 1 84 22 71 71. On accueille Sonia qui nous appelle en direct de Cotonou. Bonjour Sonia.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs de RFI.
Bon, merci de nous appeler, parce qu'il faut quand même bien le préciser, la plupart des voisines, en général, écoutent notre émission, postent un superbe message à la fin de l'émission, c'est-à-dire 10 minutes après la fin du direct, en disant « voilà tout ce que j'aurais aimé dire, et pourquoi vous n'avez pas appelé en direct ?»« Ah bah oui, je sais, non, j'aurais dû, mais j'avais pas envie de prendre la parole, ou j'ai pas le temps. » Donc bravo à vous Sonia de nous appeler en direct, nous vous écoutons.
Ben, moi, pour ce qui me concerne personnellement, j'ai travaillé dans une maison de presse. Malgré que nous avons les mêmes diplômes, nous étions en train de travailler ensemble avec les hommes. Et puis, vous savez, le salaire n'était pas le même. Il y avait une différence d'environ 20 à 25 000 sur le salaire des hommes. Mmh. Et nous faisons les mêmes travaux, nous avons les mêmes tâches dans la maison. Et quand il s'agit des postes de responsabilité, on estime que les femmes ne sont pas assez nantis pour être aux postes de responsabilité. On dit également que les femmes, la maternité aussi, fait que les femmes n'arrivent pas à accéder à ces postes de responsabilité. Moi, ça me choque, ça m'a beaucoup choqué, ce qui a fait que moi j'ai décidé de partir de cette boîte-là.
Et pour faire quoi du coup?
Ben, comme vous êtes en train de le dire, j'ai essayé de me prendre en charge. Je suis en train de faire de l'auto-entrepreneuriat. Je m'en sors.
Oui. Ça veut dire quoi, je m'en sors? Vous avez l'air pudique dans votre façon de dire je m'en sors.
Mais écoutez, j'ai essayé. J'avais pas de confiance en moi, mais à un moment donné, malgré les péripéties, j'arrive quand même à bout. Je m'occupe de moi-même. J'ai mon salaire et j'ai deux employés à charge. Donc, ça va.
C'est difficile de parler de ces difficultés à la radio quand on est une femme, pour vous, Sonia?
Ben, non, pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, les mentalités ont évolué. Je crois que les femmes n'ont plus rien à cacher. Hein.
Marie-Éloi.
Oui, pourtant le poids de la société, il est quand même très important, parce que nous, par exemple, on est en partenariat avec un média local en Bretagne. Et les premiers articles qui étaient publiés pour parler des femmes qui créent leur entreprise, les titres c'était « Motivée, Marine crée son entreprise » et l'autre...
C'est-à-dire Marine. Marine, elle n'a plus de nom de famille, c'est ça?
Oui, déjà, motivée, elle crée son entreprise. Et l'autre c'était Fabienne, 38 ans, crée son entreprise. Et on dirait jamais Jean, 38 ans, crée son entreprise, ou motivée, Olivier se lance dans la création d'entreprise en titre. Donc ça montre toujours à quel point dans l'inconscient collectif un chef d'entreprise ça reste un homme, et quand c'est une femme c'est extraordinaire. Donc bravo à vous toutes qui osez vous lancer.
Merci beaucoup Sonia de nous avoir appelé. Prisca Kouakou, vous nous avez parlé de votre expérience personnelle pour lancer votre propre entreprise. Vous êtes en direct d'Abidjan, vous avez lancé Priscanade. Vous conseillez aujourd'hui des femmes cadres. Qu'est-ce que vous observez sur ces freins personnels, ces freins enfouis au plus profond des femmes et de leur manque de confiance en elles quand elles abordent l'idée de leur carrière?
Justement, comme la consultante sur le plateau en parlait, c'est un problème de confiance en soi, de confiance en elle-même, en leur capacité, et puis beaucoup, beaucoup de problèmes de planification de vie. Mmh. Parce que la plupart, en fait, ne savent pas qu'elles peuvent planifier leur vie, qu'elles peuvent définir des plans d'action clairs par rapport à leur vie, qui leur permettraient d'atteindre leurs objectifs, de réaliser leurs rêves.
dans tous les domaines de leur vie.
Quand vous dites pudiquement planifier leur vie, vous voulez parler de la planification des naissances, entre autres ?
Non, pas planification des naissances, c'est planification de vie, c'est-à-dire combien de temps je me donne pour avoir tel nombre de diplômes, à quel âge je prévois me marier, à partir de quand je prévois faire mes enfants,
d'accord,
si je veux entreprendre, à partir de quand je dois lancer mon entreprise, en fait c'est vraiment ces différentes étapes-là.
Garder la main sur son propre destin finalement, hein, c'est ça.
Effectivement, et ne pas laisser les autres influencer nos choix surtout.
Alors là, parmi les femmes qui défilent dans votre cabinet pour avoir des conseils, pour être coachées, quels sont à l'heure actuelle les problèmes récurrents en permanence ?
Les problèmes récurrents, c'est d'abord le problème financier pour faire de longues études. Ça, c'est vraiment le plus gros problème parce qu'elles veulent aller loin. Il y en a qui veulent vraiment aller loin, mais le souci financier reste une réalité pour nous ici en Afrique. Et donc, les parents ne sont pas prêts ou n'ont pas les moyens d'investir dans l'éducation de leurs filles. Et ces filles, elles sont obligées d'avoir de petits diplômes pour juste avoir un petit salaire, pour juste vivre au quotidien. C'est ça l'un des gros soucis que je rencontre dans ce que je fais. Ensuite, il y a celles qui ont peur d'aller loin dans les études parce qu'elles se disent qu'elles ne vont pas trouver un homme, en fait, elles ne vont pas se marier.
Trop diplômées pour trouver l'amour, hein, c'est bien ça.
Effectivement, trop diplômées pour trouver l'amour. Donc, est-ce qu'il faut aller loin dans sa carrière? Est-ce qu'il faut abréger ou se contenter du peu pour ne pas perdre cette chance-là de se marier aussi? Et aussi, celles qui ont peur de ne pas avoir des enfants. Parce que très souvent, la famille nous dit on nous dit que l'âge des femmes est compté. Donc, on n'a pas autant de temps que ça. Et si tu étudies trop, si tu vas trop loin en entreprise, mais tu ne pourras pas avoir des enfants, tes projets d'enfants, tu vas les mettre au placard. Donc, c'est vraiment ces trois gros soucis là, auxquels elles sont confrontées au quotidien. Surtout la vie, le poids de la famille, le poids des conseils des parents, des aînés.
De la communauté. Parce que être conforme aux attentes de la société africaine, c'est aussi adhérer à sa propre culture, à son africanité. Il n'y a pas ce dilemme en Europe, non ? Qu'en pensez-vous, Prisca Kwaku ?
C'est vrai qu'il n'y a pas ce dilemme en Afrique, en Europe plutôt, mais on a le droit aussi en tant qu'Africain de réaliser nos rêves malgré le poids de nos cultures.
Oui, mais on a envie de rester aussi bien dans sa culture, c'est normal.
Ne réaliser ses rêves, c'est pas sortir de sa culture.
Il y a un dilemme aussi en Europe.
Oui, mais alors, Florence Sandis, oui, en Europe.
Il y a un dilemme, bien sûr. Moi, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Maîtriser votre timing », parce qu'il faut en effet que les femmes apprennent à maîtriser leur timing. C'est vrai que le moment où elles sont enceintes, où elles ont leur premier enfant, c'est pas idéal. Par contre, s'il y a une vraie opportunité pour elles, eh bien, il faut qu'elles s'organisent pour la saisir. Et il y a aussi le poids de la famille en France et de la société. Je pense par exemple à une des directrices chez Orange. Elle a pris un poste quand sa petite fille avait à peine 6 semaines, important, donc qui l'amenait dans une autre ville loin de Paris, à 3 heures de sa famille. C'est son mari qui s'est occupé pendant les 6 premiers mois de sa fille. La semaine, elle l'a retrouvée le week-end. Tout le monde le lui a reproché. Même sa propre maman lui a dit « mais tu n'es pas une bonne mère ». Alors qu'un homme, on lui aurait dit « mais c'est une occasion qu'il faut absolument saisir ». Bon, elle l'a fait et aujourd'hui, elle est une des plus grandes dirigeantes d'Orange. Et je pense qu'il faut aussi savoir imposer sa volonté. Même si notre culture ou nos familles parfois s'en contre.
Il y a un vrai tabou autour du conjoint. Comment en faire un allié s'il n'a pas de propension naturelle à croire en la réussite de sa femme ?
Je me rappelle juste d'une anecdote, c'est une des premières femmes que j'ai rencontrées quand j'ai créé le réseau qui disait « mais moi je voudrais créer une boutique pour vêtements de grande taille mais mon mari me dit que je suis trop nigaude, est-ce que vous pensez que je peux quand même y aller ?» Donc changer de mari.
Exactement, je pense qu'en effet on dit toujours que derrière un grand homme il y a une femme et derrière une femme qui réussit il y a souvent un homme qui comprend. Et Sheryl Sandberg le disait, c'est peut-être la décision la plus importante pour votre carrière, c'est la façon dont vous choisissez votre homme.
Ça devient un choix de carrière, en effet. Oui. Alors, dans votre livre, Florence Sandis, il y a vraiment trois pièges, moi, que je retiens pour les femmes. C'est la peur, le syndrome de l'imposture et le piège de la perfection. La peur, elle est, d'ailleurs, vous le disiez au début d'émission, Marie-Éloi, c'est « est-ce que tu crois que je suis à la hauteur ?» Et si j'y arrivais pas ?
Oui. La peur, elle est partout. Et le premier conseil que donnent toutes les chefs d'entreprise ou les personnes qui ont réussi, que ce soit Zaya Zioani, qui est chef d'orchestre, qui a créé dans 93 un orchestre symphonique, ou d'autres femmes, aussi bien qui pilotent des Airbus ou qui ont réussi en politique, c'est oser. Oser. Si ça vous prend peut-être un petit moment ou une seconde d'embarras, au moins vous ne le regretterez pas toute votre vie. Donc il faut oser sortir de votre zone de confort. Beaucoup de femmes qui ont réussi, de grandes femmes dirigeantes de ce monde, ont fait du sport de compétition. Pour vous dire, elles ont appris à sortir de leur zone de confort. Elles ont appris que même si elles sont nulles un jour,
on perd des matchs. On perd des matchs dans le sport de compétition.
C'est pas grave, le lendemain, elles peuvent gagner. Donc il faut oser garder confiance. Il y a toujours ce problème de confiance en soi, on l'entend chez les auditrices, mais c'est un fil rouge. Hein. Et moi, je donne beaucoup aussi de conseils très pratiques pour reprendre confiance, pour enlever ces fausses croyances négatives qu'on a entendues toute notre enfance et les remplacer aussi par des croyances positives.
C'est ça. À commencer par faites comme si vous étiez excellente, faites comme si vous étiez la meilleure, vous finirez par le devenir. Mais est-ce que c'est si simple?
C'est le as if des anglophones. Oui, ça marche. Faire comme si on avait confiance, se dire dans telle réunion, je prendrai de toute façon au moins une fois la parole. Faire comme si, y aller, la tête haute, et même si au fond on doute, mais déjà la posture va changer la confiance qu'on a en soi.
Se fixer des objectifs aussi concrets que cela.
Et petits aussi, je pense, parce que moi je vois parmi les femmes du réseau, donc c'est oser aller à une rencontre, après oser prendre la parole, oser animer une rencontre, oser ensuite intervenir dans les médias pour le réseau, donc on les voit gravir comme ça les échelons et gagner progressivement confiance en elles.
La stratégie des petits pas, c'est très efficace.
Même s'il ne faut pas utiliser le terme petit, hein,
sauf pour élaborer sa propre stratégie.
Hélène nous appelle au 33 1 84 22 71. Bonjour Hélène.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Paris?
Je suis à Paris, tout à fait.
Nous vous écoutons.
Et ma carrière a été plus ou moins à Paris et en province, sauf en tant qu'artiste où j'ai été quelquefois invitée à l'étranger. Et j'ai été enseignante en architecture. Et dans l'école qui est Malaquais, c'est un Beaux-Arts. Et là, j'ai eu comme j'avais eu une éducation à l'étranger par un père qui créait des écoles normales supérieures, j'avais des idées un petit peu différentes sur l'enseignement. Et j'ai créé des stages sur le terrain d'étudiants architectes de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, de Beaux-Arts quelquefois, en prenant des jeunes de la région quand ils étaient par là, disons que forcément j'ai dû venir de Paris, mais j'en prenais aussi dans le coin. Et peu à peu, tout mon travail a été interdit, d'une part à Paris en tant qu'enseignante, par jalousie des collègues, mais l'incompétence d'un directeur énarque. Puis, quand on m'a réhabilité, le programme a été volé par une directrice d'architecture. Et sur le terrain, j'ai eu des très gros projets, dont en particulier le plus gros, je crois, avec le professeur de Lumley, directeur du Muséum national d'histoire naturelle, à l'époque, c'était il y a 25 ans. Donc on avait un projet pour le site de Totaval-Vingros. Et ce projet a été cassé totalement par les instances, les ordres, les réseaux locaux.
On a l'impression que vous avez des comptes à régler, Hélène, mais en fait, vous avez dit au standard que votre carrière a été détruite parce que vous étiez une femme. En êtes-vous sûre ?
Une femme, tout à fait, parce qu'une femme ne devait pas travailler dans ce milieu-là. C'était un milieu complètement d'hommes, l'aménagement.
C'était à quelle époque
niveau.
Vous avez quel âge aujourd'hui, Hélène ?
Alors moi, j'ai 73 ans, c'était dans les années 85-95.
Oui. Donc effectivement,
attendez,
c'était
même
dur.
Le meilleur projet pour les cimetières de la Défense dans la prolongation de l'axe de Paris, dans le concours du Grand Axe. C'était à très haut niveau. Mais on me les a enlevés pour Gilles Clément qui n'avait pas de projet, il n'avait pas répondu.
Vous êtes fait voler vos idées. Alors ça, c'est un sujet qu'on retrouve souvent. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Hélène. Des femmes qui ont de très bonnes idées, qui se font voler leurs idées, en tout cas détournées.
Notamment en réunion, par exemple. C'est ce que les Américains ont appelé le « men interrupting ». Les hommes qui arrêtent les femmes pendant qu'elles parlent et qui ont tendance à reprendre les idées à leur compte.
Oui.
Alors il y a notamment, on en a un peu entendu parler sur les réseaux sociaux, il y avait l'équipe d'Obama, les femmes dans l'équipe d'Obama qui avaient pris cette habitude de reprendre à chaque fois qu'une des femmes proposait une idée, chaque femme reprenait l'idée en disant bien de qui elle venait à l'origine. Pour que, comme elles s'entraident.
Encore faut-il qu'il y ait cette entraide entre femmes dans ces cas-là.
Mais c'est à créer, par exemple.
Oui. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir appelé. Nous accueillons Aminata, 26 ans, Non, Aminata, on est en train de la rappeler. Alors, on avait Thérèse, qui est gérante d'un salon de coiffure à Paris. Alors, intéressant, parce qu'elle a 5 enfants, Thérèse. Et on devait la voir au téléphone, sauf qu'elle vient de prendre une cliente et qu'en plus, elle a un de ses enfants tout petit sur les bras parce qu'elle a que 3 jours de crèche. Voilà les problèmes des femmes quand elles veulent téléphoner et s'exprimer en direct dans une émission pour parler du plafond de verre et de leurs difficultés aussi, soit à conduire leur entreprise, soit à avancer dans leur carrière. Prisca, quoi coup, vous êtes toujours en ligne avec nous à Abidjan ?
Oui, je suis là.
Sur les freins, la problématique de concilier effectivement la vie de famille et la carrière aujourd'hui, quels sont les conseils que vous donnez très clairement aux femmes que vous coachez à Abidjan ?
Ben, en fait, moi, ce que je leur recommande, c'est vraiment d'être 100% quand elles sont au travail. C'est vraiment d'être entièrement dans le travail, d'atteindre leurs objectifs, de réaliser toutes leurs tâches et ne pas prendre ce qu'il y a du boulot et le ramener à la maison. Donc quand on est au travail, on est à 100% dans ce qu'on fait, on est à fond dans le travail. Et quand on est à la maison, si on a des enfants, si on est marié, ben on s'y met également à fond. Donc c'est de savoir, quand je suis à la maison, je suis à 100% maman, je suis à 100% épouse, quand je suis au travail, ben je suis à 100% dans ma
fonction. Donc de ne pas se laisser parasiter par une forme de culpabilité, hein, si j'ai bien compris. Aminata, ça y est, on l'a au téléphone, elle nous appelle de Paris. Quel âge, Aminata, vous avez ?
28 ans.
Bonjour Aminata, soyez la bienvenue, on vous écoute.
Bonjour Emmanuel, oui, donc je m'appelle Aminata, j'ai 28 ans et je suis infirmière depuis 2009. Et là, du coup, j'ai repris mes études pour faire un master de santé publique et dans le but de faire vraiment de la coordination de projet et d'évoluer dans ma carrière, pardon. Et du coup, je vois que depuis que j'ai repris mes études, je suis vraiment... confrontée à des remarques pas méchantes et que je qualifierais pas de reproches, mais vraiment au niveau de mon entourage, j'ai beaucoup de réflexions du genre « mais pourquoi tu restes pas tout simplement infirmière, c'est déjà bien, tu as des enfants en bas âge, pourquoi tu te prends la tête à vouloir évoluer ?» Et voilà, même au niveau du temps que je passe avec mes enfants. Par exemple, là, je dois partir en stage à l'étranger. Du coup, je vais devoir les laisser ici. Donc, je vois qu'il y a pas mal d'incompréhension dans mon entourage par rapport à tout ça.
Et comment vous gérez cette entreprise de sabotage de votre entourage, cette entreprise de culpabilisation ?
Je réponds. Pour moi, j'ai pas besoin de me justifier. C'est vraiment le moment où j'ai eu envie d'évoluer et je le fais parce que l'opportunité m'a été présentée.
Mais cela vous déstabilise parfois ou pas, ce genre de réflexion ?
C'est vrai que des fois, oui, ça me surprend surtout et ça arrive que ça me déstabilise, oui.
Florence Sandis, restez en ligne avec nous si vous souhaitez réagir à Aminata. Florence Sandis, vous parlez beaucoup du piège de la perfection. Oui. Pourquoi ça concerne spécifiquement les femmes ?
Parce que les femmes, nous, depuis petites, on a envie d'être bonne élève. On essaie de bien faire. On est souvent d'une fille, on la félicite quand elle est parfaite. On dirait elle est gentille, attentionnée, elle fait passer les autres avant. Or, on ne nous envisage donc pas comme Premier ministre. On peut être première de la classe, on ne nous envisagera pas comme chef d'entreprise ou Premier ministre. On ne nous a pas envisagé comme ça. Mais nous, on a toujours voulu bien faire pour les autres. Il faut arrêter de sortir de ce mythe-là. C'est pas grave, en effet, comme le disait Marie tout à l'heure. En effet, si on n'a pas 100% des compétences quand on postule pour un job, hein, les femmes n'y vont que si elles ont 90 ou 100% des compétences. Or, si on veut un jour progresser, il faut prendre un job dont on n'a pas toutes les compétences. Donc, il faut arrêter la perfection. Et pareil, quand on travaille, déléguer. De même à la maison, déléguer. Ne pas vouloir être une mère parfaite ou une professionnelle parfaite, sinon on va se dire « je ne peux pas faire les deux ». Or, on peut faire les deux. Hein ? Donc, ce n'est pas grave. Comme je dis souvent, si vous voulez que votre homme vous aide à la maison, ne lui reprochez pas, par exemple, si votre enfant est moins bien habillé, si le pull n'est pas assorti avec la couleur des chaussettes, laissez-le faire comme il l'entend également. Et essayez de ne pas aussi vouloir tout contrôler à la maison. Lâchez du lest à la maison pour pouvoir aussi vous consacrer au travail convenablement.
Le maître mot, c'est la culpabilité. Il faut enlever ce poids qui nous bouffe. Oui. Et être là où on a vraiment de la valeur ajoutée. Effectivement, s'entourer, demander de l'aide. Je pense que
de son mieux. Là où on a vraiment de la valeur ajoutée. Sauf que les femmes sont aussi guettées par ce syndrome de l'imposture, Marie-Éloi.
Oui, c'est vrai qu'on a du mal à se sentir légitime. Ils ont du mal à dire non, mais je suis vraiment chef d'entreprise. C'est un mot qui est compliqué. Donc, et j'avais aussi rencontré une femme lors d'une rencontre business. Et chacun disait pourquoi elle était là au sein du réseau. Et il y avait une des femmes qui vendait du caramel beurre salé. Et elle a dit, mais en fait, moi, c'est simple. J'arrive à prendre des rendez-vous pour vendre mon caramel. Et quand j'arrive devant les boutiques pour vendre, et ben généralement je fais demi-tour parce que je me sens pas légitime pour vendre ce caramel, j'ai pas confiance en moi. Et donc les femmes autour ont essayé de l'aider, mais il y a vraiment ce sentiment de bah oui, c'est pas pour moi, c'est pas moi et je mérite pas ça, et
qui est là, qui est présent. Même chez les plus grandes chefs d'entreprise, voire les dirigeantes, elles disent que souvent revient ce sentiment d'imposture, simplement elles apprennent à le regarder, à le mettre à distance, à souffler et à se dire non, je sais que je peux en fait, donc j'y vais.
Aujourd'hui on aborde ces sujets-là de plus en plus souvent, pourtant Marie-Éloi, vous semblez dire qu'il n'existe pas tant que cela des structures d'accompagnement pour les femmes. Alors vous avez monté le réseau Femmes de Bretagne qui pourrait être dupliqué dans d'autres régions, ça c'est pour les femmes qui veulent monter leur projet, monter leur entreprise, et puis vous êtes en passe de monter, là aussi vous courez après les partenariats financiers Bouge ta boîte, ça sera pour des femmes qui sont déjà chefs d'entreprise, mais de petites entreprises.
Oui, alors il existe beaucoup de réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, mais c'est important d'appartenir également à un réseau féminin pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, l'authenticité, l'entraide, etc. Et par contre, là, mon nouveau cheval de bataille, c'est effectivement le business. Je pense qu'il est important de permettre aux femmes d'adopter une posture de chef d'entreprise, de gagner en leadership, de parler d'argent, de faire du business, mais via un programme très structuré. Et effectivement, pour les femmes chefs d'entreprise, de toutes petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, il n'y a pas de programme comme ça. Et donc ça, c'est vraiment, il y a un besoin qui est énorme pour leur permettre justement d'essayer de voir plus grand et d'aller plus loin, d'avoir des salariés, et de travailler ensemble sur les territoires.
Et entre femmes ?
Aussi entre femmes, mais avec les hommes, c'est important d'inclure les hommes dans tout ça. Les réseaux de femmes permettent de booster, mais nous on a des hommes partout qui font des ateliers pour les femmes, qui sont au conseil d'administration, qui sont là pour nous aider. Mais les femmes entre elles, ça leur permet d'être boostées.
Véronique nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Véronique, vous êtes à Dakar?
Non, je suis à Thiès. Bonjour.
Ah pardon, vous êtes à Thiès. Vous êtes au Sénégal en tout cas. Vous souhaitez nous parler de vos déceptions dans votre carrière professionnelle, Véronique. Comment vous ressentez les choses aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vient de dire?
Alors, d'abord, j'ai parlé d'une institution, une grande institution, c'est au niveau des caisses, qui devait recruter une personne dans un poste vraiment clé. Et au moment où les candidatures féminines sont parfois très encouragées, ils ont juste dit qu'ils ne prennent pas de femmes, parce qu'avec les femmes, c'est compliqué pour les congés maternité et tout. Donc, ils ont décidé carrément de prendre un homme. On ne donne même pas la chance aux femmes. Oui.
Alors voilà. Qu'on avait encouragé les candidatures féminines, vous semblez dire qu'il y a finalement un paradoxe, enfin une double attitude, une hypocrisie.
Maintenant, on encourage beaucoup les candidatures féminines.
Mais on ne les prend
dans
pas.
Non, ce n'est pas pour ce cas-là, mais pour d'autres cas d'offres d'emploi, on dit qu'on écrit carrément que les candidatures féminines sont encouragées. Mais pour cet exemple-là, ils ont carrément dit qu'ils ne prennent pas de femmes. C'est les hommes, parce qu'avec les femmes, c'est compliqué pour les congés maternité et les autres. Voilà. Alors, pour mon cas, là où je travaille, je disais que j'ai vraiment beaucoup de travail. Et après, le salaire ne suit pas. Ne suit pas le niveau de travail. On demande parfois des explications, parfois des indemnités. On n'a pas de résultats positifs par rapport à nos demandes. Mais après, on ne se fait pas. Moi, personnellement, je ne me fais pas trop de soucis. Le plus important pour moi, c'est de bien faire mon travail et c'est tout. Si je demande une fois et que je n'ai pas de réponse positive, je ne demande plus.
Oui, évidemment, vous avez peur de vous saper le moral. Alors, vous préférez ne plus y penser, finalement, à ces injustices.
C'est fermer les yeux devant beaucoup de choses.
Véronique, c'est bien que vous soyez, que vous nous appeliez en direct, Véronique, à Thiès. Florence Sandis, je pense qu'on peut donner des conseils aussi à Véronique, parce que ce n'est pas évident de savoir se vendre. Les femmes ont beaucoup de savoir-faire. Le savoir-être est encore compliqué. Le faire savoir aussi, dire je suis compétente, je vaux tant. Quels conseils vous pouvez donner à toutes les femmes pour savoir se vendre, le marketing de soi-même finalement.
Et oser mettre en avant des critères objectifs. Vous savez, vous pouvez dire à votre employeur que contrairement aux idées reçues, les mamans, c'est-à-dire les femmes qui travaillent, qui ont des enfants, travaillent
plus en temps horaire que les hommes. Donc arrêtez avec cette idée que parce qu'on a des enfants, on travaillera moins. Moi, j'ai vu toutes les grandes chefs d'entreprise, le moment où elles me répondaient le plus, c'était entre 10h du soir et 1h du matin. Alors ça ira contre le conseil de la coach de tout à l'heure, mais souvent en effet, ces femmes qui gardent du temps pour leurs enfants, entre 18h et 21h, elles rebossent le soir. On a quand même toujours cette volonté d'être parfaite et de bien faire notre travail. Donc embaucher une femme, c'est savoir que le travail va être bien fait et oser le mettre en valeur et oser montrer, oser mettre en avant ses réussites, marketer ses réussites, écrivez-les dans un mail, parlez-en, travaillez votre profil LinkedIn, c'est votre spot publicitaire sur Internet. Vraiment, mettez en avant vos réussites et vos compétences.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Véronique. Marie-Éloi, à une époque où tout s'invente, est-ce que les femmes, en tout cas les nouvelles formes de travail sont en train de se réinventer, est-ce que les femmes vont être à la tête de ces nouveaux modèles qui peuvent aussi profiter aux hommes?
Alors justement, les femmes aussi, donc on s'est prouvé, il y a plus de performance économique quand il y a plus de mixité à la tête d'une entreprise, mais ça apporte aussi d'autres formes d'innovation, de management, d'idées. Les femmes aussi sont souvent plus tournées vers le développement durable. Donc oui, les femmes sont moteurs pour quelque chose de nouveau. Et plus on ira vers l'équilibre dans le domaine entrepreneurial, mais aussi à la tête des entreprises, plus les femmes se porteront mieux, ça c'est sûr, mais les hommes aussi et la société tout entière s'en portera mieux.
Est-ce qu'il y a un conseil à retenir que vous donnez souvent aux femmes?
Allez-y, osez.
Oui, mais plus précisément.
Sortez de votre zone de confort.
Vraiment. Prenez des risques.
Prenez des risques.
Oui.
Vous n'avez rien à perdre.
Non, mais ça a l'air évident, mais ça ne l'est pas.
Surtout si vous tirez les leçons de vos échecs. Ce n'est pas grave un échec. Ça fait progresser.
Merci à vous toutes. Florence Sandis, vous publiez Briser le plafond de verre, 12 idées pour réussir au féminin. C'est publié chez Michel Lafon. Marie-Éloi, vous êtes fondatrice, directrice du réseau social Femmes de Bretagne. Bouge ta boîte, ça va démarrer dans quelques mois. Tous les liens vont être sur notre page 7 milliards de voisins, RFI.fr. Merci à vous aussi, Prisca Kouakou de Priscanade. Et merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas, Didier Cherouz. Demain, 7 milliards de voisins. Manger peut-il être un acte citoyen avec le grand chef français Alain Ducasse et Christian Abégan pour le retour du patrimoine culinaire africain. Et bien sûr, vous aurez la parole. Merci à vous toutes les voisines aujourd'hui.